compléter ma présentation, je dirais que pour ma part, j'ai une expérience multiple de l'école puisque j'ai fait toute ma scolarité dans le public, dans des établissements très, très différents, défavorisés pour certains. En seconde, je suis la seule élève de ma classe à être passée en filière générale. Et puis des établissements favorisés, ceux où j'ai fait mes classes préparatoires. Enfin, ma classe préparatoire. Voilà. Par ailleurs, je suis une élève des années 90, pour reprendre ce que disait Bruno Roche ce matin, donc époque où il s'est dit beaucoup de conneries. J'ai connu les schémas de prop, j'ai connu l'UFM, où j'ai appris, pour ma part, beaucoup de choses. Je ne serai pas aussi sévère sur l'UFM, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir à la fin de mon propos. Voilà. Alors, je vous préviens, mon propos sera un petit peu plus spéculatif, mais bon, si on doit s'excuser d'être sérieux ici, c'est que vraiment le monde tourne à l'envers. Donc, voilà, je vous préviens. Alors, sur ce sujet, la morale à l'école, je commencerai par constater que la liste des missions de l'école ne cesse de s'allonger. Et tout se passe comme si ce que la famille et la société ne veulent plus, peut-être par paresse ou par lâcheté assumée, eh bien, il faudrait que ce soit l'école qui le prenne en charge. Quand il devient presque impossible de rappeler sur un plateau de télévision que tromper sa femme et aller voir sa maîtresse en scooter, c'est quand même moins bien que de lui être fidèle. En revanche, on attend, on exige que l'école apprenne le respect de l'autre et l'altruisme à nos enfants. Donc l'école devient quelque part un peu la bonne conscience de la société. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce que finalement, en ce début d'année un peu agité, j'ai remarqué que les élèves, que nos élèves, ont peut-être été les seuls à poser les bonnes questions. Mais qu'on les a jugés inaudibles, irrecevables. Et j'aimerais introduire mon propos par en citant ce que Madame la ministre de l'Éducation nationale a dit devant l'Assemblée nationale mercredi 14 janvier. Ouvrez bien vos oreilles. Ça devrait vous éviter de vous endormir. Donc, pour rebondir sur les minutes de silence chahutées dans les établissements, voici ce qu'elle a dit. J'ai presque voulu vous photocopier le texte pour que vous me croyez, mais faites-moi confiance. Donc, oui, l'école est en première ligne sur ces questions morales. L'école est en première ligne, elle sera ferme pour sanctionner, pour créer du dialogue éducatif, y compris avec les parents, car les parents sont des acteurs de la coéducation. Merci. L'école est en première ligne aussi pour répondre à une autre question. Car même là où il n'y a pas eu d'incident, il y a eu de trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais » les « deux poids, deux mesures ». Pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là ? Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école, qui est chargée de transmettre des valeurs. Fin de citation. Vous pouvez retrouver ce propos sur Internet, mais effectivement, dans le flux des informations, il est passé un petit peu inaperçu. Alors, je reviendrai dans la suite de mon propos sur ce texte ubuesque, mais je veux souligner que oui, nos élèves se posent les bonnes questions et que, quelque part, Bruno Roche l'a bien dit, l'école joue encore son rôle puisqu'ils savent démonter la mobilette, ils savent utiliser leur esprit critique justement pour questionner ce qu'on leur enseigne. Et donc, je crois que sur ces questions, sur ces préoccupations d'ordre moral, nous leur devons mieux qu'une journée sur la laïcité ou que la Marseillaise. Et dans ce propos, j'aimerais, au-delà de l'actualité de ce mois de janvier, revenir justement sur la proposition faite par Vincent Peillon il y a maintenant un an et demi, et puis reprise dans l'urgence par Najat Vallaud-Belkacem, et qui sera donc mise en place à la rentrée, proposition de réintroduire des cours de morale à l'école. Donc en précisant tout d'abord les contours et l'origine un petit peu de ce projet, et puis dans un second temps en le discutant, j'aimerais me poser deux questions. Tout d'abord, enseigner est-il vraiment le bon moyen de transmettre la morale ? Et je reviendrai sur la distinction que Bruno Roche a faite entre enseigner et transmettre. Enseigner est-il vraiment le bon moyen de transmettre la morale ? Et deuxième question, l'école n'a-t-elle pas mieux à offrir en matière de morale que des cours abstraits et desséchants sur la laïcité, sur le civisme, sur la République, cours que pour ma part j'ai eu, hein, j'ai eu des cours d'instruction civique. Voilà, est-ce qu'on n'a pas mieux à offrir? Et ma conviction, ma thèse, c'est que qu'en voulant rajouter des cours de morale et d'instruction civique, on passe à côté non seulement, non pas vraiment des vraies missions de l'école. Ça c'est l'argument fréquent. Si d'abord l'école nous apprenait à lire, à écrire, on serait content. Mais surtout, on passe à côté de ses vraies ressources. Car ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a toujours fait, c'est enseigner. Et ce geste est en lui-même gros de possibilités qu'on ignore et qu'on méprise trop souvent. Et ma thèse sera donc de dire qu'enseigner, que tout enseignement est par lui-même éthique. Alors tout d'abord, rappelons le contexte du débat qui a suscité cette question. Donc, il y a maintenant un an et demi, Vincent Peillon proposait donc d'introduire cet enseignement de morale à l'école, et il rejoignait par là une attente forte, puisque selon certains sondages, plus de 90% des Français seraient favorables à cet enseignement. Vincent Peillon s'inspirait lui-même de son grand maître, Ferdinand Buisson. Alors je rappelle qui est Ferdinand Buisson, il a été nommé par Jules Ferry à la direction de l'enseignement primaire sous la Troisième République, et Jules Ferry lui a demandé d'introduire à l'école primaire un enseignement moral, voulant par là contester le double monopole de l'Église et de la famille en matière de morale. Voulant quelque part réussir à écrire une sorte de catéchisme pour l'école. Alors, pour eux, leur posture philosophique, c'est de dire que cette morale enseignée est non confessionnelle, elle est laïque, elle n'a pas besoin de s'adosser à la religion, et son fondement ne pose pas vraiment problème, puisqu'il postule que nous avons un sens moral, une sorte de sixième sens, comme nous savons discriminer les couleurs, les odeurs, nous saurions discriminer eh bien, le bien et le mal, et qu'il y a une science morale qui a un caractère de certitude. Je cite Jules Ferry, « Ce que vous communiquez à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, mais celle du genre humain. Il faut vous situer dans l'humble et sûre région de la morale usuelle, et enseigner des connaissances reconnues et indispensables à tout homme civilisé et incontestables pour tout homme de bon sens. » Et il perçoit d'emblée le risque d'endoctrinement. Il évite d'ailleurs souvent soigneusement l'expression de morale laïque, et il multiplie les déclarations rassurantes. « Ce que l'on enseigne, c'est la bonne vieille morale de nos pères, la vraie morale, la grande morale, la morale éternelle, la morale sans épithète. C'est la morale du devoir, la vôtre, la nôtre, la morale de Kant, celle du christianisme. Bon. » Et on connaît tous le conseil qu'il donne aux instituteurs dans sa lettre de 1883. « Si un père de famille était dans votre salle de classe et s'il se trouvait choqué par l'un de vos propos, abstenez-vous. » Et effectivement, cette morale, pour avoir lu en entier le manuel de morale de rédigé par Ferdinand Buisson, effectivement, cette morale ne concurrence pas véritablement les missions de la famille et de l'Église. Peggy lui-même disait que l'instituteur ne disait rien d'autre que en la matière que le curé. Et donc, si vous ouvrez le manuel de morale de Ferdinand Buisson, eh bien, vous trouvez des situations concrètes. Alors, c'est pour l'école primaire. Pierre et Paul jouent aux billes. À l'issue de la partie, Pierre frappe Paul. Que pensez-vous de cela? Alors, après, la situation devient plus complexe. Il y a un tiers qui arrive. La question de la délation se pose. Bon, donc, bon, pourquoi pas? Enfin, moi, si c'est ça, la morale à l'école, bon. Pourquoi pas? On pourrait même imaginer une séance sur est-ce respectueux de caricaturer Mahomet? Enfin, voyez, ce serait un cas possible qu'on pourrait soumettre à la sagacité des élèves. Et d'ailleurs, en ce sens, est paru à la librairie des écoles un manuel d'instruction civique et morale rédigé par Chantal Delsol, qui est assez bien fait. Part alors non pas de situation, Pierre, Paul, etc., mais de textes littéraires, qui justement illustrent de grandes vérités morales. C'est comme ça que vous trouvez, par exemple, illustrer la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, par exemple avec un conte des frères Grimm, le grand-père et son écuelle. Le grand-père est relégué au fond de dans la maison à manger tout seul parce qu'il est sénile, qu'il est maladroit, qu'il se tâche, qu'il en met partout. On lui donne même une écuelle en bois pour que il ne casse pas ses couverts. Et un jour, le père voit son fils en train de tailler un morceau de bois et lui dit: « Mais que fais-tu? » « Bah, je te prépare ton écuelle pour lorsque tu seras vieux. » Et là, le père réalise que finalement, il ne voudrait pas que l'on fasse cela pour lui-même, ce qu'il fait pour son propre père. Voilà. Donc c'est assez convaincant comme manuel. Alors, je crois qu'il y a quand même deux difficultés, et c'est ce que j'aimerais maintenant creuser. Si cet enseignement est inoffensif, est-il véritablement efficace? Est-ce ainsi, et c'était la première question que j'ai posée en introduction, que l'on transmet des dispositions vertueuses? Un cours de morale peut-il nous rendre moraux? Penser que la morale puisse s'enseigner, c'est supposer deux choses. C'est supposer, premièrement, que la morale donne lieu à un savoir. Et c'est supposer que ce savoir soit assez efficace pour nous mettre en mouvement, pour nous faire agir. Parce que être moral, c'est pas simplement connaître le bien, c'est pas simplement savoir ce qu'il faut faire, mais c'est le faire. Donc l'enjeu principal de cette question, c'est que peut vraiment le savoir? Identifier ce que l'on doit faire est suffisant pour nous pousser à le faire. Alors, c'est là que mon propos va devenir un peu spéculatif et que je vais faire un peu de philosophie, parce que cette question-là, c'est la question la plus ancienne de l'histoire de la philosophie. C'est la question que les Grecs nommaient la question de l'akrasie, la question de la faiblesse de la volonté, et qu'ils formulaient de la manière suivante. Est-il possible de juger, de savoir que A est la meilleure solution, la meilleure action à faire, et cependant de faire autre chose que A? Alors, spontanément, on a envie de répondre oui, c'est tout à fait possible, et c'est ce qui se passe sans cesse. Il y a entre la théorie et la pratique un gouffre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ou comme saint Paul, le bien que je veux, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas, je le fais. Spontanément, on pense ainsi, et les sophistes à l'époque pensaient effectivement ainsi. Sauf que Platon leur fait remarquer que dire cela, ça suppose qu'on puisse vouloir le mal, qu'on puisse se diriger consciemment vers le mal. Et en réalité, c'est pas vraiment comme ça qu'on choisit. Quand on se trouve dans un dilemme moral, en fait, on n'hésite jamais entre le bien et le mal. On n'hésite jamais, il n'y a pas d'un côté un petit ange, puis un diable rouge, et on serait dans cette hésitation. En réalité, on hésite toujours entre deux biens, entre deux choses qui nous semblent plaisantes. Et c'est ce qui faisait dire à Platon, et c'est lui qui représente la position de l'intellectualisme moral, c'est ce qui faisait dire à Platon que finalement, on cède. Non pas au plaisir, non pas au désir, mais à l'ignorance. C'est par ignorance de notre vrai bien, on ne veut pas le mal, on veut mal. C'est par ignorance de notre vrai bien qu'on se tourne finalement vers le mal. Jean-Noël Dumont n'est pas là, alors je vais en son honneur reprendre son exemple fétiche du paquet de cigarettes que tous ses élèves ont déjà dû entendre 1000 fois. Mais en gros, c'est vrai que la question, c'est la suivante. Fumais-tu? C'est écrit sur tous les paquets. Pourtant, on fume. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, parce que implicitement, inconsciemment, on se fait le raisonnement suivant. Fumais-tu? Oui, mais pas moi. Fumais-tu? Mais plus tard, dans longtemps, c'est pas tout de suite. Donc, si vous voulez, on recule l'échéance, et quelque part, on est victime de l'apparence, on cède à un bien immédiat, et on ignore, on repousse les conséquences futures. Donc, si vous voulez, cette position-là morale, c'est celle qui est sous-entendue, cette position philosophique, c'est celle qui est sous-entendue derrière l'idée d'un enseignement de la morale. Elle consiste à dire que être moral et savoir comment l'être, c'est la même chose. On partage, donc c'est la fameuse phrase que tout le monde connaît, hein, de Socrate, nul n'est méchant volontairement, le méchant est seulement un idiot, le méchant est victime finalement de son ignorance, et il faudrait par les lumières de la connaissance dissiper le mal. Alors, quelque part, c'est le pari que nous faisons à travers l'idée d'un enseignement de la morale. C'est le pari des Lumières que de penser que le savoir est à lui seul un rempart à la barbarie. À quelques nuances près, Platon pensait pour sa part que certains d'entre nous sont dans une ignorance invincible et qu'aucun cours de morale ne peut les sauver et qu'on ne peut finalement le mieux est de les asservir. Hein. C'est quand même pour aller jusqu'au bout, pour présenter jusqu'au bout ce que pense Platon, c'est quand même ça. Alors, en réalité, cette position pose problème parce que dans l'action, le savoir ne commande pas réellement. Parce que nous sentons avant de penser. Et que dans toute action, le savoir doit composer avec le désir. Non pas forcément parce que le désir est un obstacle, mais parce que c'est lui qui pose les fins, c'est lui qui me fait vouloir. Et donc, la vie morale doit commencer par pétrir cette matière première qu'est le désir. Et aucun cours de morale, aucun enseignement théorique de la morale ne peut pétrir notre affectivité. Celui qui a des désirs désordonnés raisonnera en vain, c'est trop tard. Et c'est ce que soutiendra notamment Aristote. En quelque sorte, il vous dit, vous pouvez très bien être un mathématicien alcoolique, ça pose pas problème. Voyez, votre vice n'affectera pas votre raisonnement. Mais en revanche, vous ne pouvez pas être intempérant et raisonner correctement sur l'action, puisque dans l'action, désir et savoir sont corrélés. Donc, comment mettre en ordre une affectivité si ce n'est pas par un enseignement théorique ? Alors, Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, nous dit, il faut pratiquer la vertu. Il faut pratiquer des actions vertueuses. Alors, tout bon lecteur d'Aristote a remarqué que c'est circulaire. Ça veut dire qu'il faudrait être vertueux pour devenir vertueux. Il faudrait déjà être vertueux pour devenir vertueux. Comment briser le cercle ? Comment rentrer justement dans le cercle de la vertu si ça ne peut pas être par un cours justement de vertu? Eh bien, Aristote dit très modestement, par l'imitation, par l'habitude, en faisant semblant. Et c'est effectivement ce qu'on apprend à faire à nos enfants. La politesse, c'est une manière de faire semblant d'être vertueux, faire semblant d'être moral. Alors, un salaud peut être poli, hein. Je vois bien la limite de ce propos. Mais n'empêche que dans ces masques, il y a une forme de sérieux. Petit à petit, ces masques peuvent s'incruster et déposer en nous quelque chose comme une prédisposition à la vertu. Donc, ma première conclusion, pour revenir à mon problème de la morale à l'école, c'est de ne pas mépriser cette provenance modeste de la vertu. Et il faut bien voir que l'école peut jouer ici, a un rôle ici à jouer, indépendamment de tout cours de morale, de tout enseignement théorique de la morale. Non pas en faisant chanter la Marseillaise aux élèves, mais parce que au creux de chaque heure de cours se façonnent les caractères, les tempéraments. Comment ne pas voir le double sens du mot discipline ? Une discipline, c'est un contenu théorique, c'est un savoir positif. Mais c'est aussi une manière de se soumettre à des règles. Et s'initier au savoir, eh bien, c'est aussi s'initier aux règles. C'est en s'initiant à la grammaticalité de la langue, justement, en apprenant une langue étrangère, en apprenant les mathématiques, cela requiert tension, effort, et cela, justement, discipline les plaisirs et les peines, ce qui était l'enjeu pour Aristote. Donc, bien sûr, cela ne peut que transmettre, ne peut que conduire à une prédisposition au bien, c'est évident. Mais il ne faut pas mépriser cette première possibilité. Bien sûr, on peut imaginer que le cercle se reforme. C'est-à-dire, on peut se demander comment faire entrer dans cette discipline celui qui n'est pas un tant soit peu discipliné. Celui qui n'a pas justement appris dans sa famille à rester justement une heure en silence, etc. Effectivement. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ce que Bruno Roche indiquait ce matin, toutes ces conditions extérieures, cette organisation du temps, de l'espace, cette ritualisation qu'il peut y avoir dans l'établissement et qui participe justement à cette à ces conditions modestes de mise en place de la vertu. Le deuxième point, la deuxième critique qu'on peut faire à l'enseignement de la morale sous forme théorique à l'école, c'est qu'il n'y a peut-être pas de science de la morale comme il y a de sciences exactes, puisque être moral, c'est être capable de poser une action bonne, agir. Et l'action est toujours située, est toujours incertaine. Nous agissons toujours dans un contexte particulier avec des personnes singulières. Et donc il y a une vie dans les relations humaines qu'aucun cours de morale ne peut résumer, qu'aucune situation ne peut abstraite ne peut anticiper. Et Aristote disait que ce qu'il faut réussir à développer, ce n'est pas l'acquisition de grands principes abstraits, mais plutôt d'un esprit de finesse qui nous fait justement savoir quel est le bon mot, la bonne attitude, au bon moment, avec les bonnes personnes. L'homme prudent, c'est le modèle hein, pour lui, c'est celui qui ressent chaque émotion de la bonne manière avec les personnes qui conviennent, je le cite, pour les raisons et la façon qu'il faut. Donc, Aristote nous oppose finalement deux manières de penser la morale. Vous avez une manière abstraite et déductive, un peu comme le fera Kant plus tard, donc vous partez de principes abstraits et vous en déduisez votre comportement, ou alors une manière inductive, et c'est peut-être ça qui est intéressant. Il fonctionnera dans son œuvre à partir de portraits, il dira jamais ce qu'est le courage, mais ce qu'est l'homme courageux, ce qu'est la magnanimité, mais ce qu'est l'homme magnanime. Et partir justement de cette morale inductive qui fonctionne à partir de modèles et non de principes abstraits. Et là encore, pour revenir à la situation de l'école, nos cours de morale resteront totalement inefficaces si comment les écoutera-t-on si l'école qui les enseigne ne les met pas elle-même en pratique. C'est pour ça que je conclurai ce point en disant que la morale ne s'enseigne pas et elle se transmet. C'est ce que disait Bruno la distinction que proposait Bruno ce matin. Parce que revenons à la situation de laquelle je suis partie, de la citation de Madame la ministre. Les élèves se trouvent en classe. La classe, on les comprend, c'est un lieu dans lequel on questionne. On interroge, elle suppose esprit critique, et donc la morale, en descendant dans l'arène de la classe, eh bien, s'expose à la critique. Alors, je crois qu'elle peut la supporter, mais ils ont raison, leurs questions ne sont pas insupportables, ne doivent pas nous être insupportables, on leur a appris à poser ces questions. Mais effectivement, la morale, elle a en même temps raison de dire que l'école doit transmettre des valeurs, mais elle ne doit pas se tromper justement de médias, de moyens. La morale, effectivement, se transmet, ne s'enseigne pas, elle passe d'une génération à l'autre, non pas seulement par l'argumentation, par l'analyse critique, mais par l'exemple qui fait briller quelque part de manière incontestable la vertu et qui se passe de démonstration. Donc l'enseignement de la morale restera vain s'il n'est pas accompagné d'une transmission incarnée par les personnes elles-mêmes. Enfin, deuxième point de mon propos, j'aimerais me poser une question concernant le contenu même de cette morale. Ce qui me paraît un peu inquiétant dans cette volonté de réintroduire les cours de morale à l'école, c'est surtout la pauvreté et la vacuité de ce projet. Je vois en gros à quoi ces cours vont ressembler, je les ai eus en cours d'instruction civique, mais en gros la morale serait réduite à un ensemble de valeurs abstraites, du genre la dignité, la laïcité. D'ailleurs c'est très intéressant, si vous lisez le rapport, je pense que ça vous arrivera pas, hein, mais le rapport qui a été remis à Vincent Peillon, Vincent Peillon a demandé à ce qu'un rapport soit rédigé par un certain nombre d'universitaires sur cette question de la morale à l'école, et il y a un glissement sémantique, syntaxique plutôt permanent. Alors on commence par parler d'un enseignement laïque de la morale, puis après on en vient à un enseignement d'une morale laïque, et puis on finit par un enseignement de la laïcité tout court. Donc, valeur qui emporte le morceau. Alors, pour ma part, s'il s'agissait de réintroduire des cours de morale façon Troisième République, je ne serais pas opposée. Je veux dire, ça peut pas faire de mal. Au pire, ça reste inefficace, mais ça peut pas faire véritablement de mal. Mais dans ce rapport, justement, les rédacteurs insistent sur l'idée qu'on ne peut plus, il ne s'agira pas de retourner à cet enseignement moral-là. Je cite le rapport, « La morale commune ne peut plus, à l'image de la morale laïque du passé, prescrire et imposer la conception d'une vie bonne parmi d'autres. Les hommes de ce temps, de la Troisième République, semblaient partager un monde commun. La morale imposait alors une conception du bien et un idéal d'humanité, l'honnête homme, le bon chrétien, le bon citoyen, à un moment où cette imposition était légitime, possible et nécessaire. Notre époque, au contraire, est marquée par le pluralisme des opinions et des croyances. » Et le but, justement, de cette morale à l'école, ça serait de renouer, je cite le rapport, l'individu et le commun, l'individu et le collectif, et de nous faire, expression très à la mode, vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est la finalité hein, de cette morale. Et alors justement, la morale a-t-elle pour vocation de nous faire vivre ensemble? Je crois que c'est vraiment une morale minimale qui se réduit un peu comme une peau de chagrin et qui ne combattra jamais ce qu'elle veut combattre, parce que dans les lignes de ce rapport, il faut bien entendre ce qu'il vise. Il s'agit de renouer l'individu et le commun pour combattre le fanatisme. Et je crois qu'une telle morale ne combattra jamais le fanatisme. Pourquoi ? Parce que, justement, elle ne propose rien. Il y a deux manières, je ne vais pas faire un cours de philosophie morale, mais en gros, vous avez deux manières de penser la morale dans l'histoire de la philosophie. La manière moderne de penser la morale, et c'est celle qui inspire ce rapport, c'est de considérer que le centre de gravité de la morale, c'est l'autre. Et que être moral, c'est avoir le souci de l'autre. Et c'est ce qu'on trouve dans la morale kantienne. On obéit à la loi morale pour que nos libertés s'ajustent les unes les autres et qu'on soit à égalité devant la loi morale. Donc, une telle morale, et c'est celle qui est sous-entendue par ce rapport, ne peut nous proposer d'imbriquer nos libertés. Mais elle ne nous dit pas vraiment vers quoi sont tendues nos libertés. Et généralement, elles peuvent être résumées par l'expression terrible que mes élèves emploient sans cesse. Ah oui, c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Bon. Vous voyez, c'est pas cette conception spatiale des libertés qui, comme ça, se gênent les unes les autres. C'est quand même pas très convaincant. Et effectivement, vous avez un autre courant moral, philosophique, plus ancien, la morale telle que les anciens la concevaient. Cette morale n'avait pas pour but de nous faire vivre ensemble, mais de nous faire vivre avec nous-mêmes. Avant d'avoir des devoirs avec les autres, j'ai des devoirs pour Platon, pour Aristote, pour les stoïciens, j'ai des devoirs envers moi-même. La question que me pose la morale, c'est pas tant... jusqu'où est-ce que je peux agir ? Ça, c'est la question du droit, finalement. Mais la question que me pose la morale, c'est la question du genre de vie que je veux mener. C'est la question de mon office, de ma vocation. C'est la question de à quoi, finalement, j'ai envie de me dévouer, de me consacrer. Il y a peut-être des voies par lesquelles je me détruis, des voies par lesquelles je me réalise. Voilà. Eh bien, je crois que si l'école ne veut pas perdre une partie de son sens, et je terminerai sur ce point, eh bien, il faut qu'elle assume peut-être cette morale plus ambitieuse, qu'elle ne se réduise pas à vouloir adapter les individus à la vie économique et politique en développant des compétences ou je ne sais trop quoi, mais qu'elle réponde à cette question du sens. Alors, comment le peut-elle ? Eh bien, justement, en enseignant. Parce que enseigner, c'est, comme le rappelait M. Laudet ce matin, c'est dire quelque chose. C'est faire, c'est proposer, c'est faire découvrir aux élèves l'intelligibilité du monde. C'est faire découvrir par des grands textes, par le détour de la culture, des possibilités d'existence. Et n'oublions jamais jusqu'où porte le geste de l'enseignement. Ma crainte, c'est qu'à séparer systématiquement l'enseignement et l'éducation, vous voyez, à consacrer des cours de morale comme ça, qui seraient autonomes, qui seraient distincts des enseignements théoriques, on laisse supposer que l'enseignement n'a pas en lui-même une portée, une vocation éthique. Mais par exemple, si on pense aux très belles pages de Paul Ricoeur sur la lecture, qu'est-ce que lire un texte ? Lire un texte, c'est pas simplement comprendre, accumuler des informations, mais c'est se comprendre devant le texte. C'est recevoir de lui, je cite, un moi plus vaste. Donc voilà le danger, me semble-t-il, de ce projet hein, de réintroduction de la morale à l'école, hein, sous cette version autonome. Le danger, c'est de ne pas percevoir toutes les potentialités de la culture, sa puissance proprement éducative. Je pense à ces fameuses heures de vide classe qu'on a rajoutées, comme si la classe ne vivait pas en dehors de cette heure-là, comme si elle ne vivait pas justement lorsque l'on s'y instruit, et comme si c'était d'ailleurs pas sa seule raison de vivre. Voilà. Alors pour conclure, je citerai ce que dit Hannah Arendt, beaucoup citée aujourd'hui, dans La crise de la culture. Elle dit: on ne peut pas éduquer sans en même temps enseigner. Et l'éducation sans enseignement est vide et dégénère donc aisément en une rhétorique émotionnelle et morale, parfaitement creuse d'ailleurs, et les élèves n'en seront pas dupes. Voilà. Alors, pour ma part, pour conclure, moi-même, j'ai vécu l'école un peu comme une épopée existentielle. Et je le rappelle bien, j'ai fait toute ma scolarité dans le public. J'ai eu quasiment l'intégralité de mes profs de philo qui étaient athées, matérialistes, marxistes. Ça ne m'a pas dérangée, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas attendu d'être ici pour baigner dans le sens tout d'un coup et que la culture me parle. Non, non, pas du tout. J'ai une expérience plutôt heureuse de l'école, même de l'UFM. Et pourquoi? Je reviendrai à ce que j'ai entendu ce matin, parce qu'effectivement. Effectivement, j'y ai toujours rencontré à chaque fois un professeur, plusieurs professeurs qui m'ont montré justement une certaine manière de se rapporter au savoir. C'est effectivement cette manière d'être au monde, même si je ne partageais pas leurs convictions, c'est cette manière de se rapporter au savoir, de les voir vivre avec ce savoir qui m'a donné justement le goût de penser ma propre existence. Voilà.